Bonjour, bien-aimés. Nous allons commencer notre moment de louange. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Dieu notre Père, une fois de plus, nous sommes réunis en ce lieu parce que nous répondons à ton invitation, parce que nous voulons vraiment t'offrir toute cette louange, toute cette adoration. Nous sommes conscients que tu nous as bénis tout au long de cette semaine. Nous sommes conscients que tu nous aimes. Nous voulons te rendre en retour tout ce que nous avons sur le cœur. Alors reçois favorablement tout ce que nous avons à t'offrir en cet instant. Que tu puisses diriger tout ce qui va se passer dans cette salle, au nom de Jésus. Amen. Pardon. Ça fait plaisir de vous revoir après un temps de vacances. Nous savons que même dans un même pays, des fois dans le même pays, la même zone, on peut avoir plusieurs mots pour la même chose. Par exemple, il y a 2 ou 3 ans, nous sommes partis en vacances à Bordeaux et il y avait une boulangerie juste en bas. Donc je suis allé et j'ai demandé des croissants et un pain au chocolat. Le boulanger, il m'a servi et en énumérant ma commande. Donc des croissants et une chocolatine. Alors que moi, j'ai demandé un pain au chocolat. Donc on peut voir que dans le même pays, il peut y avoir plusieurs mots. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons un mot qui est identique, quelles que soient les langues. Quelles que soient les langues, ce mot veut dire louer l'Éternel. Est-ce que vous avez, c'est quoi? Alléluia. Premier lovely. Ouais, vous êtes bon, félicitations. Donc quelle que soit la langue, quelle que soit la contrée, la région là où vous êtes, c'est Alléluia. Nous devons vraiment louer l'Éternel. Louer l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Louer l'Éternel pour les bons moments que nous avons passés durant les vacances. Nous sommes restés, louons l'Éternel. Nous sommes en bonne santé, louons l'Éternel. Nous pouvons venir ici, le prier, le louer. Louons l'Éternel. Nous allons chanter ce premier chant au Seigneur de la joie. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que sur la terre et dans les cieux chantent nos voix, que tous les arbres des forêts dansent de joie. Dans la campagne, tous les fruits jubilent en toi. Et les montagnes crient de car tu es le Seigneur, notre Dieu. Chantez, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Que les nations te rendent grâce au Dieu très haut, et tous les peuples qui te chantent un chant nouveau. Toute la terre te célèbre en son repos, et tous les justes qui t'adorent et te bénissent à jamais, car tu es le Seigneur, notre Dieu. Chantez, Alléluia, Alléluia. Je t'exalte dans mon cœur, marcherai vers toi, Seigneur. Ton ami proclame et chante son bonheur. Tu combleras ton serviteur au grand festin de l'agneau, car tu es le Seigneur, notre Dieu. Chantez, alléluia, alléluia, alléluia. À toi la gloire, ô notre Père, et dans les cieux. Toute louange et toute grâce au Fils de Dieu, Père dans l'esprit et joie au cœur des bienheureux, fidèle d'allégresse et chant de fête jour et nuit dans le ciel, car tu es le Seigneur notre Dieu. Chantez, alléluia. Alléluia, alléluia.
Amen.
Amen. Je vous invite à vous asseoir et faisons monter vers Dieu nos louanges, notre adoration. Quand nous réalisons le sacrifice accompli à la croix pour chacun de nous, qu'on l'ait accepté ou pas, le sacrifice a été fait pour tous. Pour ceux qui l'ont accepté, on peut se dire qu'on ne veut pas être ailleurs que dans ses bras d'amour. Jésus a été à la croix pour chacun de nous. Il nous a donné son nom. Il nous connaît. Nous sommes à lui. Nous voulons vraiment lui dire, je veux chanter un chant d'amour. 626.
Être ailleurs que dans tes bras.
d'amour
tout près de toi contre ton cœur
tout près de toi
contre ton cœur
tout près de toi
contre ton cœur
dans tes bras d'amour.
Amen. C'est la déclaration que nous faisons au Seigneur. Quand nous voyons ce qui se passe un peu dans le monde, quand il y a quelque chose qui se passe qui est super bien, on use de superlatifs. C'est super, c'est génial. Les jeunes disent « Ah oui, c'est un truc de dingue, c'est un truc de ouf. » Pour Dieu, quel superlatif utilisons-nous pour ce Dieu si grand, si fort, si puissant? Nous avons un Dieu qui est fidèle, fidèle. Il nous aime, donc il mérite notre louange. Notre louange lui revient. Ma louange te revient.
Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin de ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin de ma vie t'appartient. Digne, 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 digne notre Dieu. Digne le Seigneur des seigneurs. Digne, 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 digne notre Dieu. Digne le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange te revient, la gloire te revient. Ma louange te revient, la gloire. Seigneur, fidèle, 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 notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs, fidèle est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient.
Amen. Nous n'avons besoin de rien d'autre, de qui que ce soit. Dieu est là. Cette semaine-ci, il y avait un reportage où on montrait un adolescent qui disait il passait minimum 8 heures sur Instagram par jour. Ça peut paraître énorme, et c'est effectivement énorme. Et on peut se demander, est-ce que nous aussi, nous ne passons pas du temps plus dans des distractions, dans d'autres choses que vers Dieu? Est-ce que nous donnons à Dieu la dernière partie, le reste, les miettes de notre journée? On passe du temps dans pas mal de choses que nous pensons être louables, tout à fait normales, mais ça nous prend du temps et on donne à Dieu les miettes. En Corinthiens 10, le verset 12 dit « C'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de tomber. » On peut penser être debout. On peut penser être fort, mais Dieu dit que dans les derniers temps, s'il n'avait pas abrégé les temps, personne ne serait sauvé, sauf celui qui l'a choisi. Donc, il ne faut pas attendre la fin de l'année, début d'année, pour faire son bilan, se dire, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Mais voir avant, est-ce qu'il y a quelque chose qui prend la première place dans ma vie, plutôt que laisser la place à Dieu? Tant qu'on n'a pas compris que nous avons besoin de Dieu, nous devons aller vers Dieu, il y a un problème. Nous devons vraiment nous recentrer sur Jésus. C'est Jésus qui est mort pour nous. Nous allons chanter ce chant. Jésus, sois le centre de ma vie.
Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir. Sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie, Jésus. Centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus.
Encore une fois, Jésus.
Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Lumière, sois ma source, Jésus.
Merci Seigneur.
À la bouche du serviteur que tu as choisi en ce matin, que nous voulons encore être édifiés, encouragés, exhortés. Alors nous le remettons entre tes mains, Dieu notre Père, que tu puisses vraiment le bénir, que tu puisses lui donner les paroles qui viennent de toi, afin qu'il puisse encore nous parler de ta part. Et merci aussi de permettre que nous ayons des oreilles attentives afin de pouvoir écouter ce que tu veux nous dire en ce matin. Merci de le bénir, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir.
Bonjour bien-aimés, voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce une fois de plus, d'être dans sa présence, d'être dans sa maison pour le célébrer. J'aimerais nous inviter ce matin à méditer la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous aurons deux textes de base qui nous conduiront dans notre méditation d'aujourd'hui. Josué, le chapitre 24, du verset 14 au verset 29. Et ensuite, nous lirons un autre texte dans l'Ancien Testament, toujours parmi les prophètes, Agée, le chapitre 2. Le texte qui sera le principal pour notre méditation de ce matin, c'est celui de Josué, chapitre 24. Pour situer un peu l'histoire de ce texte biblique dans toute l'histoire de la parole de Dieu, ce texte de Josué fait partie de ce qu'on appelle les livres historiques. La Bible, dans sa composition qu'on appelle le canon, la règle qui a régi par Dieu et par les auteurs humains, cette parole que nous avons dans la main, il faut savoir que Bible vient du mot Biblia ou Biblios, qui veut dire une bibliothèque de livres, une bibliothèque de livres saints. Et dans l'Ancien Testament, nous en avons 39. Les cinq premiers livres de la Bible s'appellent le Pentateuque, qui vient du mot 5. L'auteur en est Moïse. C'est le livre des origines, qui nous raconte l'origine de notre humanité, et comment Dieu, même dans le mal du péché, continue de chercher à sauver l'homme créé à son image. Et donc c'est Moïse que Dieu a choisi pour écrire ses cinq premiers ouvrages de la Bible. Et ce Moïse, son histoire, nous a raconté dans le deuxième livre de la Bible, le livre d'Exode. C'est lui donc que Dieu suscite à un moment donné de l'histoire du peuple d'Israël, alors que ce peuple est en esclavage en Égypte pendant 4 siècles. 4 siècles où ce peuple va vivre un esclavage rude, un esclavage il n'y a pas de qualificatif pour ce type d'esclavage-là, comme s'il y en avait pour tout esclavage tout court. Moïse est né dans une période où le roi, sinon l'empereur, qui était aussi Dieu en Égypte, on l'appelait le roi soleil, le pharaon, avait décidé, fort de la peur que le peuple d'Israël en termes de nombre, de quantité, soient plus nombreux que les Égyptiens et que peut-être une rébellion, une révolte mette à mal son peuple, il avait pris un décret pour que les sages-femmes mettent à mort tout bébé qui naîtrait garçon. Les sages-femmes d'Égypte avaient donc la consigne lorsqu'elles allaient aider les femmes juives à mettre un enfant au monde, elles avaient la consigne de tuer les bébés qui naîtraient garçons. Et c'est ce qui se faisait. Mais en fait, c'était rien du tout, puisque les esclaves, c'est des animaux. Donc, on tue un enfant d'un esclave, c'est comme si on tuait un animal. Ça n'avait pas de sens, il n'y avait pas de dignité dans l'esclave. Et Moïse naît dans cette période où justement deux sages-femmes ont décidé de ne pas obéir au décret de ce roi, dit le Dieu Soleil. Poussées par Dieu, donc, ces deux sages-femmes, lorsqu'elles voient que cette juive, cette israélite, met au monde un garçon, elles décident de désobéir et de faire naître ce garçon. Et avec la mère et toute la famille, elle décide de mettre un stratagème pour que ce garçon soit épargné. Épargné de la mort dès la naissance. Mais comment faire pour que son existence soit cachée? Puisque manifestement, il n'y a plus de petits garçons dans les quartiers juifs, puisque tous les petits garçons, a priori, sont éliminés à la naissance. Donc, ça serait bien suspect de voir un petit garçon gambadé dans le camp des esclaves alors qu'il n'en a pas du tout. Dieu donne l'intelligence à sa mère, à sa sœur et à tous ceux qui sont concernés de fabriquer un genre de panier, puisqu'elles avaient cette habilité-là, de l'enduit d'une substance qui rend ce panier étanche à l'eau, de mettre ce bébé dans ce type de panier et de le laisser couler sur le Nil, parce qu'elles avaient une information selon laquelle la princesse d'Égypte, à une certaine heure de ce jour-là, venait prendre son bain au bord du Nil. Et que c'était une princesse stérile qui n'avait pas de descendance. Donc que peut-être ça serait une bonne opportunité, si elle trouvait un enfant sans nom dans les eaux du Nil, ça pourrait faire son affaire. Ce qui a été le cas, puisque justement son nom, Moïse, veut dire sauver des eaux. Cette princesse donc, descendante légitime de Pharaon, adopte cet enfant et l'élève dans la cour royale. C'est ainsi que l'histoire de Moïse est tracée. Il deviendra le libérateur de ses frères de l'esclavage. Dieu lui donnera cette mission de les sortir d'Égypte et de les mettre dans un pays où coule le lait et le miel qui s'appelle Canaan, sur ce tronçon de terre qu'on appelle le croissant fertile, qui est aujourd'hui appelé Palestine, Israël, mais en tout cas, c'est ce bout de terre entre l'Égypte et le Moyen-Orient. Moïse donc va faire cette mission, va conduire ce peuple sortir, et à la porte de Canaan, Dieu va lui dire, ici s'arrête ta mission. Désormais, c'est un autre qui va conduire ce peuple, ton assistant direct, Josué, que tu as formé. Non seulement que tu l'as formé dans la connaissance de cette parole que je t'ai donnée, tu l'as formé dans les rites aussi cultuels pour servir le culte à l'Éternel, mais en plus, un peu plus que toi, c'est un guerrier. Et à ce moment précis, le peuple a besoin d'un leader qui soit aussi un militaire. N'oublions pas que nous ne sommes pas au 21e siècle, que nous sommes dans un temps où malheureusement les conquêtes territoriales sont malheureusement l'apanage de cette civilisation-là. On est grand, on domine, on est petit, on se fait dominer. Et c'est comme cela que Josué va prendre le bâton de commandement à la mort de Moïse. Et Josué fera rentrer le peuple à Canaan. Tout le livre de Josué, du chapitre 1 jusqu'au chapitre suivant, raconte justement l'histoire de cette conquête, l'histoire de l'installation justement du peuple d'Israël sur la terre de Canaan. Et le chapitre 24 est la belle conclusion de cette conquête où Josué, fort de ce que Dieu a fait pour le peuple, va leur faire prendre un engagement. Et nous faisons la lecture du chapitre 24 à partir du verset 14. Et c'est Josué qui parle. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vous servez, que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoriens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » Verset 19. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Il répondit, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous. Car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites, elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Amen. Ces récits historiques et vrais qui ont le sceau de Dieu nous mettre au cœur de l'histoire de notre humanité, de l'histoire du peuple que Dieu a choisi comme un peuple en pédagogie pour nous montrer la voie. Ce peuple lui-même n'était pas un peuple extraordinaire. Celui qui était extraordinaire, c'était le Dieu de ce peuple. Josué, fort de la mission que Dieu lui a donnée au chapitre 1, avec cet ordre assez traditionnel qu'on recite, que nous connaissons, en tout cas pour ceux qui ont une petite culture biblique, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour, ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras. Ce n'est pas une formule magique, c'est une promesse de Dieu qui demande l'engagement de celui qui reçoit cette promesse. Et Josué en a fait l'expérience. Dieu a tenu sa promesse tant que Josué tenait aussi sa promesse de l'alliance avec son Dieu. Et fort de cette promesse accomplie, de la mission que Dieu lui avait confiée au soir de sa vie, rempli des défis, des succès, des échecs, mais de la présence continuelle de Dieu, Josué fait un bilan honorable. Il regarde en arrière et il voit toute la grâce que le Dieu d'Israël est un Dieu dont les promesses sont oui et amen. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit aussi. Et Josué liste au peuple tout ce que l'Éternel avait dit et tout ce que l'Éternel a fait. Et il dit, fort de cela, qu'allez-vous faire? Il dit, la tentation est bien grande. Maintenant que vous êtes que vous êtes à l'aise. Et le texte est très fort parce que le texte dit, Dieu vous a donné un pays en fait que vous n'avez pas conquis. Parce que même les combats dont on parle, c'est Dieu qui les a remportés pour eux. Il dit, je vous ai donné des villes que vous n'avez pas bâties. Parce que les villes, il les a expropriées à des gens que Dieu estimait ne plus être dignes de ces villes. Souvent, ça nous choque. Souvent, on est choqué quand on lit ces textes. On dit, oh là là, il a exproprié des gens. Il y a eu des exterminations. C'est horrible. Quelle injustice. Je me rappelle à chaque fois que je passe devant le château de Versailles et que je vois cette pléthore de personnes qui vont visiter ce château avec fierté et dignité. Il y a une histoire dans ce château. C'est pas une histoire toujours glorieuse, hein. Mais on est tous, en tout cas ceux qui vont visiter, sont fiers de visiter ce grand château avec ses lustres et tout ça. Pour nous qui sommes protestants, quand même, l'habitant de ce château, il est le révocateur de l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'était un édit qui donnait la paix aux protestants en France, parce que pendant bien longtemps, les protestants en France ont été pourchassés. Ils étaient persona non grata. Allez visiter le musée du désert dans les Cévennes. Combien de protestants ont été amenés au bagne, aux galères, parce qu'ils étaient juste protestants. Donc l'édit de Nantes était un édit de paix qui avait été établi pour que chaque Français, peu importe sa religion, puisse avoir la sécurité de sa vie. Et c'est le roi Soleil, c'est Louis XIV, qui a révoqué l'édit de Nantes et qui a remis les protestants français en péril. Et pourtant, on visite tous le château de Versailles. C'est le patrimoine de l'histoire française, n'est-ce pas? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que notre histoire humaine n'est pas toujours une histoire glorieuse. Et on voudrait que celui qui a créé l'humanité, on voudrait lui faire un procès parce qu'à un moment donné, il juge que tel ou tel peuple, c'est le temps pour eux de payer. Vous savez, quand Dieu dit des choses, parfois on écoute d'une oreille et on l'entend pas très bien. Dieu dit que si une génération a été perverse, a été cruelle, a été il dit, c'est pas sur elle seulement que le malheur va s'abattre. C'est sur plusieurs générations que ce malheur va s'abattre. Dieu est un Dieu qui est un Dieu qui veut que chacun soit responsable de ce qu'il pose comme acte. Parce que lui-même, il est responsable de l'acte qu'il pose. Et je crois que c'est important de considérer que nous n'avons pas de procès à faire au Dieu qui est celui qui est l'auteur du livre de Josué, de Juges et de tous les livres historiques avec toutes ces conquêtes-là. Certes, être humain du 21e siècle, nous sommes situés, n'est-ce pas? Parce que notre histoire vient dans une histoire apaisée. Nous sommes nés dans un contexte de paix. Donc nous ne savons pas ce que c'est que préserver la vie de ceux qu'on aime dans des conquêtes armées. Nous ne savons pas. Mais aujourd'hui, nous savons. Pour quelques-uns d'entre nous qui sommes originaires de certains continents, de certains pays, nous savons. Parce que dans ces continents-là, dans ces pays-là, nous connaissons la guerre. Nous connaissons les guerres tribales. Nous connaissons les guerres territoriales. Aujourd'hui, nous qui sommes en Occident, à 2000 kilomètres de nous, nous connaissons. Puisqu'il y a la guerre en Ukraine. C'est une guerre de territoire. Ceci étant dit, Josué dit, finalement, Dieu nous a donné la paix. Qu'allez-vous faire pour la suite? Maintenant que vous êtes bien installés, maintenant que Dieu vous a donné des plantations que vous n'avez pas semées, qu'il vous a donné des villes que vous n'avez pas bâties, qu'il vous a mis au large parce qu'il vous avait dit à Moïse, quand Moïse vous sortait d'Égypte, en tout cas quand Moïse sortait vos parents d'Égypte, je vous conduirai à Canaan. Maintenant que vous êtes installé à Canaan, qu'allez-vous faire? À 110 ans, Josué sait que sa vie va finir là. Parce que à l'époque, les plus vieux vivaient jusqu'à 120. Donc il savait qu'il lui restait très peu d'années encore à vivre. Et que la suite allait être celle qui était la plus importante. Sa vie était derrière lui, mais la vue du peuple était encore devant le peuple. Qu'en est-il de nous, dans nos familles, dans nos foyers? Le verset 15 de Josué est une déclaration forte d'un homme qui a su vivre cette déclaration. Il dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc Josué dit, c'est vrai, il y a un choix collectif en tant que peuple à prendre, mais il y a un choix individuel aussi. Et si vous arrivez de ne pas choisir l'Éternel, sachez que moi et ma famille, nous resterons fidèles à l'Éternel. Et Josué voit bien qu'il y a un enthousiasme et que cet enthousiasme est lié aux bénédictions que le peuple a eues. Vous savez, quand Dieu bénit, c'est facile. Il dit, Seigneur, je vais te suivre hein, quand Dieu bénit. L'enthousiasme du peuple, Josué se méfie de cet enthousiasme-là. Josué les incite à dépasser l'enthousiasme de cette bénédiction et à regarder plus loin. Il cherche un engagement serein qui n'est pas juste un enthousiasme, qui n'est pas purement émotionnel. Grande parenthèse que je veux faire. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre spiritualité, l'émotion a pris trop de place. Oui, l'émotion a sa place dans notre spiritualité, mais pas que. Vous savez, l'image que moi j'ai de l'émotion, c'est un reptile africain dans les pays chauds qui s'appelle le caméléon. Vous savez, le caméléon, c'est un reptile qui a cette caractéristique de se camoufler. Il se camoufle en fonction de la couleur de la végétation. Et c'est impressionnant de le voir. Quand il marche d'une végétation jaune à une végétation verte, sa pigmentation change automatiquement. C'est incroyable. C'est extraordinaire de le voir. Il me semble que l'émotion, elle est comme ça. Elle prend la couleur des situations de la vie. Quand tout va bien, oh, on est bien content, tout marche et tout est... Mais viennent les épreuves, oulala, la banane est passée à travers, le visage, il est tout... On ne peut pas compter que sur les émotions. On ne peut pas compter sur les que sur les émotions. C'est pour ça que l'amour de Dieu, quand Dieu parle de l'amour, il ne parle pas que d'un amour émotionnel. Il parle d'un amour qui est un engagement. Et l'amour dans le mariage n'est pas qu'émotion. Il est aussi engagement. Et le proverbe dit, engage-toi à aimer la femme que tu as choisie depuis ta jeunesse. C'est un engagement. La vie, notre vie humaine jusqu'au prochain retour de Jésus est une vie qui va être malheureusement cadencée par des joies, par des difficultés, par des succès, par des échecs, par des déceptions, par des frustrations. Toutes les sortes d'émotions sont en nous, elles rencontrent les situations de nos vies. Donc, si notre spiritualité n'est liée qu'à nos émotions, attention, 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 attention. L'un des signes de cette propension élevée d'émotion dans notre spiritualité aujourd'hui, je suis désolé de le dire comme ça tout simplement, mais c'est une analyse que pas que moi qui le fais, mais beaucoup de pasteurs, de chrétiens matures, de théologiens, c'est la plupart de nos cantiques aujourd'hui. Beaucoup de nos cantiques aujourd'hui touchent nos émotions. Et on a l'impression que c'est un enthousiasme spontané où quand ces cantiques sont chantés, ça bouge dans les émotions, ça bouge dans les émotions, ça bouge dans les émotions, ça bouge dans les émotions. Et puis en semaine, on est un peu surpris de voir tous ceux qui ont bougé le dimanche au culte dans une situation un peu pas chrétienne. Tu dis où là? Moi qui étais tout feu, tout flamme au culte dimanche, qu'est-ce qui m'arrive en semaine? Parce qu'en semaine, il y a beaucoup de choses qui passent en semaine. Il y a le travail, il y a les études, il y a la fatigue. Et tout ça agit sur nos émotions aussi. Bien-aimés, les émotions sont quelque chose que Dieu nous donne dans notre humanité. Donc nous sommes des êtres émotionnels et c'est normal que nos émotions rentrent en jeu. Mais pas que. Nous avons besoin, au-delà de nos émotions, d'une spiritualité d'engagement. Et c'est ce que Josué demande au peuple de considérer. Il dit considérer que le Dieu dont nous parlons, c'est un Dieu saint. Ce qui fait de lui le Dieu incomparable dans ce contexte du monde du temps de Josué par rapport aux autres peuples. Parce que chaque peuple à cette époque-là avait son Dieu. Chaque localité avait son Dieu. Chaque localité avait sa divinité qu'elle adorait. Et lorsqu'on pénétrait une zone d'influence de cette divinité, on pénétrait aussi sur le territoire de cette divinité avec son influence. Alors que l'Éternel, lui, il n'est pas un Dieu local. Il n'est pas localisé à Sichem. Il n'est pas localisé à Jébou. Il est l'Éternel, le Dieu créateur et qui est le Dieu omniprésent. Il est partout. Il est le Dieu saint. Donc c'est pas comme si je quitte Sichem, je quitte le territoire influent de Dieu de Sichem. Non. C'est pas un Dieu territorial. Parce qu'un Dieu territorial, lorsqu'on quitte le territoire, on échappe à sa vigilance. Mais au-delà de la vigilance, parce que lorsqu'on parle de Dieu qui nous voit, on voit tout de suite le Dieu surveillant, gardien, qui regarde nos moindres gestes. Et je trouve que c'est une belle erreur, parce que théologiquement, c'est pas ça que ça veut dire. Théologiquement, ça veut dire, celui qui te voit tout le temps, il veille sur toi. Il veille sur toi. C'est une grâce, parce que lui, il te voit tout le temps. Il n'y a pas une seconde, il n'y a pas une tierce de seconde de ta vie qui ne voit pas. Donc, il veille sur toi tout le temps. Quelqu'un l'a dit dans sa prière, 24 heures sur 24, le Seigneur veille sur toi. 7 jours sur 7. 365 jours sur 365 jours, il veille sur toi. L'Éternel ne sommeille ni ne dort. C'est une grâce d'être sous le regard de ce Dieu-là. C'est une grâce. Donc, c'est un Dieu saint. Il n'est pas un Dieu local, c'est le Dieu de l'univers, celui qui est éternel, celui qui n'a point de commencement. On dit son commencement commence au début de l'éternité. Allez me chercher le début de l'éternité. Partout, il domine toutes les zones géographiques. La preuve, c'est que depuis qu'il a suscité le premier patriarche Abraham, à Ou, en Babylonie, il a conduit ce peuple jusqu'à ce jour, à Canaan. Et quelles que soient les péripéties de ce peuple, il n'a pas cessé de leur manifester son amour. Et même quand ce peuple n'était pas toujours fidèle, lui, il est resté fidèle. C'est un Dieu jaloux. Le terme jaloux ici n'est pas une jalousie comprise au sens humain. C'est parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. De tout temps, il existe le danger que le peuple, bien qu'il ait accepté le Dieu, l'Éternel, ne prenne pas au sérieux le fait que c'est un Dieu exclusif. Quand on dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne, ça veut simplement dire que Dieu est tellement attaché à la relation spéciale qu'il a avec l'être humain créé à son image, que c'est personne d'autre qui a créé l'être humain, c'est lui qui l'a créé. Et quand un autre Dieu veut se revendiquer créateur, parce qu'être Dieu, c'est revendiquer que je suis créateur de ces êtres humains-là. C'est faux, parce qu'il n'y a que lui qui nous a créés. À quel moment un autre Dieu nous a créés? Et c'est ça qu'on dit, c'est un Dieu jaloux, parce qu'en fait, il est le seul qui nous a créés. Et d'attribuer ce qu'il a fait à d'autres dieux, c'est de la forfaiture. C'est du mensonge. Et il ne peut pas l'accepter. Vous savez, les procès qu'il y a dans certaines familles, dans le sens que cet enfant est le vrai fils d'un tel et pas le fils d'un autre, il y a des procès comme ça en justice. Parce que chacun veut démontrer que cet enfant est le sien. Vous vous souvenez de cet épisode de ces deux femmes devant cette sagesse de Salomon? Il semble que deux femmes qui dormaient avec leurs enfants, comme ça arrive souvent, tous les parents, il y a des fois on a dormi avec eux, dans nos lits, n'est-ce pas? Heureusement qu'ils sont bien vivants aujourd'hui. Malheureusement, pour ces deux femmes, une a mal dormi, en tout cas c'est comme ça que moi je lis les textes, elle a étouffé son enfant à elle. Et l'enfant, le pauvre, il est mort dans la nuit. Elle s'est réveillée la première, elle a constaté la bêtise, elle a changé les positions des enfants. Le sien qui était mort, déjà une maman qui fait ça, une maman qui change de position d'enfant, il y a quand même quelque chose de tordu dans la tête de cette maman, déjà. Parce qu'on ne peut pas... Bref, elle change la position de l'enfant, mais la deuxième maman, parce qu'elle connaît son bébé, chaque maman connaît son bébé. Chaque maman connaît son bébé. Et la deuxième maman se réveille, elle a dit, oula, c'est pas le mien celui-là. C'est pas le mien. Le mien n'est pas comme ça. Et l'autre, non, mais c'est ton enfant. Bref, elle se trouve devant Salomon. Et Salomon dit, c'est une affaire très compliquée, hein, parce qu'on n'y était pas. Vous étiez que toutes deux avec les deux bébés. Donc c'est un peu compliqué de trancher. Par contre, ce qui est simple, c'est que chacune de vous va partir à une partie de l'enfant. Puisque finalement, il reste qu'un seul enfant et que vous êtes deux. Apportez-moi une épée bien aiguisée. Je vais trancher ce bébé en deux. J'en donne une partie à chaque maman. Comme ça, au moins, chacun est satisfait. La vraie maman de l'enfant dit, je ne peux pas supporter ça. Qu'elle garde l'enfant. Je préfère que l'enfant soit vivant et avec une autre femme et être triste de cela que de voir mon enfant mort. Salomon dit, remettez l'enfant à celle-là. C'est la vraie maman de l'enfant. Et c'était vrai en plus. Dieu est jaloux parce que nous sommes ses enfants. Parce qu'il tient à nous. Parce qu'il nous connaît. Parce qu'il veut le meilleur pour nous. Et que les autres dieux ne peuvent pas nous donner ce que lui, il a prévu de nous donner. La Bible dit, les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance afin que vous les accomplissiez. C'est ça qui fait qu'il est jaloux. Ça qui fait qu'il est jaloux. Et je termine cet exemple avec... Vous savez, des fois, nous les parents, hein, il arrive que l'enfant entende des conseils dehors. Et tu sais que c'est un conseil qui ne va pas lui faire du bien. Mais il va vouloir te convaincre que l'autre personne qui lui a dit est plus intelligent que ses parents à lui. Et ça fait tellement mal aux parents des fois. Tu te dis, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? C'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'on dit que c'est un Dieu jaloux. Parce qu'il voit qu'on écoute des conseils de Dieu tordu. De Dieu, excusez-moi du terme, de Dieu imbécile. Un imbécile, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc ces dieux-là, ils ne savent pas déjà où ils vont. Et vous êtes convaincus qu'ils vous mènent à Canaan. Et Jésus dit, souvenez-vous, hein, que c'est Dieu qui vous a mené à Canaan. C'est pas le Dieu des Amorites, c'est pas le Dieu des Madianites, c'est pas le Dieu des Jébusiens. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Peut-être que tu le sais parce que tu as fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Peut-être que tu ne le sais pas parce que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Mais sache, que tu le saches ou pas, Dieu, il t'aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Et que Dieu connaît chaque être humain et il nous connaît chacun parfaitement au point de connaître le nombre de brins de cheveux qui est sur la tête de chacun d'entre nous. Et il connaît chaque être humain par son nom. Chaque être humain par son nom. Parce qu'il nous aime. Quand on aime les gens, on cherche à les connaître. On cherche à savoir qui ils sont. On connaît leur nom, puisque le nom de la personne fait partie de son identité. Si vous êtes ami avec quelqu'un depuis des années et que vous l'appelez mon ami, à un moment donné, il va s'interroger quand même. Il dit, c'est bien, je suis ton ami, mais j'ai quand même un prénom, hein. Et qu'au bout de 5 ans, votre ami ne connaisse pas votre prénom, il y a un souci. Il y a un souci. Dieu connaît chacun de nous par nos noms parce qu'il tient à nous. Parce qu'il tient à cette relation intime, filiale. C'est un Dieu de relation, bien aimé. Malheureusement, après la disparition de Josué, le peuple s'est détourné de Dieu. Il semble que si c'est arrivé, on le voit dans Juges chapitre 3 jusqu'au chapitre 7. Une des explications, c'est dans Juges chapitre 2 verset 10 qui dit « Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Le peuple s'est laissé influencer par les peuples alentours. » Cette génération-là n'a pas persévéré dans la connaissance de la parole de Dieu. Elle est restée dans l'émotion. Elle est restée, vous savez, elle est restée dans le statu quo. Si on n'apprend pas à connaître notre Dieu, on prend le risque de stagner. Mais celui qui prend le risque de stagner prend le risque aussi de rétrécir. Et d'oublier. Il y a des traditions qui sont stériles. Il y en a qui sont vivifiantes. Venir à l'église, je dis toujours, c'est un bon départ, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin quand tu viens à l'église. Il faut ouvrir ton cœur à Dieu. Il faut aimer écouter la parole de Dieu. Il faut aimer lire la parole de Dieu. Il faut aimer méditer la parole de Dieu. Il faut aimer prier le Seigneur ton Dieu. Il faut aimer venir participer aux études bibliques dans l'église. C'est tout ça qui nous fait grandir. Il faut aimer venir les dimanches à l'église. J'ai dit venir expressément, venir, pas rester couché devant un petit écran. Aujourd'hui, il semble qu'il y a des cultes pyjama. Le culte pyjama, c'est celui qu'on fait coucher dans son lit en pyjama, avec son smartphone, son iPhone allumé, avec le culte en direct. Oula! 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 Le micro ne va pas me suivre, mais je vais le faire quand même. Où on a sa tasse de café, on la sirote avec le culte en direct. Étymologiquement, un culte, c'est un temps spécial. C'est un temps d'adoration. On doit être dans des conditions spécifiques pour rendre un culte à Dieu. On ne peut pas faire ça n'importe quoi. On ne peut pas faire ça n'importe quoi. On ne peut pas faire ça n'importe quoi. En fait, quand on fait ça, excusez-moi du thème, on se fout de Dieu. Il y a des choses très simples dans la vie qui le montrent. Qui de nous, même le plus fou d'entre nous, lorsqu'on l'invite à l'Élysée, déjà quand tu reçois l'invitation pour aller à l'Élysée, peu importe ton caractère, tu sais déjà que c'est un truc spécial. Que tu n'aies pas un costume qui coûte 1000 euros, c'est pas ça le plus important, mais tu sais que tu dois être quand même dans une certaine disposition pour t'y rendre. Peu importe si c'est une chemise simple ou une chemise à carreaux ou une veste, je sais pas de quelle marque, peu importe, mais tu sais que cette chemise, elle doit être au moins repassée. Tu sais au moins que c'est pas la chemise avec laquelle tu as fait, je sais pas moi, le ménage hier que tu dois mettre. Tu sais au moins que tu dois te préparer à cette visite. Puisque l'ordre de cette invitation est mentionné. Donc, dans ta tête, tu commences à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu pourrais dire? On raconte l'histoire, je sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est une anecdote. On raconte l'histoire de quelqu'un qui a dit, dans un des pays, s'il rencontrait le président de son pays, il allait lui présenter la plus grande doléance de sa vie. Et il semble qu'il s'est préparé pour ce jour-là. Et puis, le sort a fait que ce jour est arrivé. Et le jour où il a rencontré ce président, lors d'une des célébrations et que le président marchait pour saluer les gens, il s'est trouvé qu'il était dans les dispositions où justement Le président lui a serré la main et lui a dit, vous allez bien? Titanisé de cette rencontre, la bulle a explosé. La question qu'il avait préparée depuis, s'est dissipée et il s'est figé et le président est parti. Ça arrive, hein? Prépare un événement et puis quand ça arrive là, on est... Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et puis tous les amis attendent après. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on fait ça pour les rencontres humaines, soyons un peu sages pour faire un peu plus pour les rencontres avec notre Dieu. Entre un Dieu qui est disponible et qui s'est rendu accessible et d'être vulgaire, il me semble qu'il n'y a pas d'égale mesure. Des fois, je suis enregistré. Des fois, un juif regarde un chrétien évangélique, il rigole. Parce qu'un juif, la considération qu'il a pour Dieu, même s'il n'est pas un chrétien, elle est très haute. Parce qu'il sait qui est l'éternel des âmes. C'est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers. Il nous a fait la grâce de se révéler en son fils Jésus. Pour être ami avec nous. C'est une grâce, c'est pas un mérite. Donc ne prenons pas cette grâce pour une revendication. Accordons le respect et la gloire que Dieu mérite. Des fois, je réfléchis, je me dis, franchement, quand je regarde toutes les découvertes scientifiques sur notre univers, toutes ces planètes qu'on découvre maintenant avec des appareils scientifiques sophistiqués et qu'on dit avec certitude que Dieu a créé toutes ces choses, c'est un Dieu alors que je dois craindre. Parce que ça veut dire que ce Dieu-là, franchement, il est d'une magnificence extraordinaire qui dépasse mon imagination. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont eu une parcelle de vision de la gloire de Dieu, ils sont tous tombés raides, visage contre terre en disant, malheur à moi, car je sais que je vais mourir. Parce que pécheur que je suis, une telle sainteté, je ne vais pas y résister. Et il y a toujours un acte de sanctification pour qu'il reste dans la présence de Dieu. Que Dieu nous aide à considérer nos engagements, à le suivre. Alors, comment concrètement, selon Josué chapitre 23, verset 11, dit « Veillez attentivement sur votre âme afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Veillez attentivement sur votre âme afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Josué 23, verset 11. Il faut veiller, les bien-aimés. Si vous êtes dans la foi, un de mes aînés a dit une fois, et je suis d'accord avec lui, et c'est un principe qui m'anime aussi. Il dit, la foi, c'est pas une course de vitesse. Non, c'est une course de fond. On sait pas les kilomètres de cette course de fond, on sait pas. Souvent, les courses de fond, c'est 1000 kilomètres, c'est 13 kilomètres. Pour la foi, là, on sait pas. L'essentiel, c'est de rester dans la course et de continuer de courir. L'essentiel, c'est que tu arrives à ton rythme que le Dieu qui t'aime t'a donné et que tu arrives à l'arrivée. Et l'arrivée là, ça peut être 120 ans. L'arrivée là, ça peut être demain matin. On n'en sait rien. On n'en sait rien. J'ai un ami que j'avais perdu de vue sur Facebook. Mais un ami d'enfance, un ami cher, un ami qui était passé à un moment donné ici, puisqu'il vivait l'autre côté. Et on avait passé des séjours incroyables ensemble. Et puis, je l'ai perdu de vue. Je voyais plus que... Il faisait plus de poste et tout. Il était pas en France. Il était dans un autre continent. Et puis, j'ai activé tous les autres amis connectés à nous pour savoir où il en était, où il est. Dites-lui de m'écrire parce que ça fait un bout de temps. Et puis, ses amis m'ont dit, mais Serge, tu sais pas? Il est mort. C'était un choc.
était si jeune. Il avait la vie. Professionnellement, il commençait vraiment à s'épanouir. Il était bon dans son domaine. Il commençait à gravir les échelons dans son domaine de compétences. Et il est parti. Et je ne savais pas qu'il était parti. Il est parti. Dans Luc, le chapitre 15, le Seigneur Jésus dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Aussi riche soit-il. Car la vie d'un homme dépend de Dieu. Le psaume 139 dit, il c'est lui qui compte le nombre de nos jours. Donc il sait le nombre de nos jours. Bien-aimé, veille sur ton âme. Veille à aimer l'Éternel ton Dieu. Si tu le connais, tu es dans la bonne direction. Engage-toi à rester fidèle à ton Dieu. Quiconque croit que le Seigneur Jésus est le Messie, le Sauveur du monde, sauve son âme car Dieu l'accepte. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 4. Aimer Dieu, c'est aimer Jésus-Christ. Et cela se traduit dans l'amour pour les enfants de Dieu, pour l'Église et l'amour du prochain. Le test qui montre que nous veillons sur notre âme afin d'aimer Dieu, c'est de voir si notre vie est dirigée selon les enseignements de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu peux dire que tu aimes Dieu, tu peux dire que tu crains Dieu, mais la meilleure façon de le manifester, c'est quelle est l'autorité de ce livre sur ta vie? Quelle est l'autorité de ce livre sur ta vie? Si ce livre n'a pas d'autorité sur ta vie, assis-toi et réfléchis un peu sur ton amour pour Dieu. Parce que je dis, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Et le terme garder en grec, c'est pas juste connaître. C'est connaître pour vivre. Connaître pour pratiquer. Au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu dira, plusieurs en ce jour-là me diront, Seigneur, Seigneur, moi je te connais. Moi je t'ai servi. Moi j'ai fait telle chose. Jésus dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne te connais pas. Parce que tu dis ça, mais en fait, ta vie n'était pas conforme à ma parole. Donc, c'est pas tant ce qu'on fait pour Dieu qui l'intéresse. C'est ce qu'on est avec lui qui l'intéresse. Comment nos vies sont impactées par lui. C'est ça qui intéresse Dieu. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements et ses commandements ne sont pas un fardeau. Quand la Bible commence à être un fardeau pour toi, soit les interprétations qu'on te donne soit sont fausses, soit elles sont vraies, mais c'est que tu as un vrai problème. Parce que la Bible dit que les commandements là, et souvent on voit les commandements en termes d'interdiction. Non, les commandements de Dieu ne sont pas d'abord des interdictions. C'est une orientation de vie. C'est un projet de vie. Un projet d'amour de Dieu pour chacun de ses enfants. C'est ça. Est-ce que la Constitution française est un commandement lourd? Non. C'est un socle social pour que tous les Français, tous ceux qui vivent sur le territoire français, aient une harmonie de vie. C'est ça, la Constitution. Et les commandements de Dieu, c'est ça. C'est un socle spirituel, humain, que Dieu donne aux humains pour qu'ils aient une vie en harmonie avec lui et en harmonie les uns avec les autres. Pour qu'à la fin de nos vies, nous puissions dire, Seigneur, je t'ai connu, je t'ai servi. Et que le Seigneur dise, entre à la droite de ton maître. Bon, loyal et fidèle, serviteur et servante. Amen. Que Dieu nous bénisse en sang. Que la grâce de Dieu soit suffisante. Que cette parole de ce matin puisse nous motiver, nous encourager à continuer notre marche chrétienne. Certes, les émotions font partie de notre humanité, mais Dieu attend de nous un engagement. Amen.
Merci pour le message de la parole de Dieu. Je vais demander